Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À côté de la plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe. On connaît des chefs, leur parcours, leur terroir, leurs produits, leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux ? Leurs envies, leurs phobies, leurs croyances, leurs faiblesses, leurs lubies, leurs secrets, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe.
Salut Chloé, merci d'être mon invitée pour ce podcast.
Salut Raphaël, bah de rien, ça me fait très plaisir.
Ah, merci beaucoup. Je commence avec ma question préférée. Comment ça va ?
Écoute, ça va super bien. J'ai passé des bonnes vacances. Les dernières avant de passer à la deuxième partie de ma vie. Donc, cool.
C'est-à-dire ?
Comme on va avoir un petit bébé, c'est les dernières vacances sans enfant, quoi. Après, ça sera ni mieux ni moins bien, mais ça sera complètement différent, je pense. Enfin, que tout le monde nous dit, c'est que ça doit être vrai.
Oui, c'est vrai que tout le monde parle de ça, ouais.
Donc,
ça se trouve, tu vas te dire, bah, je comprends pas, c'est pareil.
C'est pas une chose.
Pourquoi tout le monde s'affole ? Est-ce que t'es une lève tôt ?
Pas du tout.
Ah ouais ?
Non, j'aime pas me lever tôt. Et
t'as bien choisi ton métier.
Ah, par contre, je suis très capable. Alors, je suis un peu moins capable que quand j'avais 25, 28 ans, 29 ans. C'était il y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 3-4 ans. Mais j'ai un peu changé là-dessus. C'est que je suis plus capable de me lever un quart d'heure avant de partir de chez moi.
Faut que tu te lèves bien plus tôt.
Donc, je me lève plus tôt. Ouais, maintenant, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour me réveiller. Et puis, c'est surtout un plaisir aussi. J'ai pas vraiment le choix, je le fais.
Qu'est-ce qu'on ignore de toi ?
Qu'est-ce qu'on ignore de moi ? Pas mal de choses. Moi, j'aime bien avoir mon petit jardin secret.
Ouais.
Quelqu'un d'assez entière. Donc, en vrai, si tu me poses des questions, généralement, j'arrive pas à ne pas y répondre. Enfin, j'ai beaucoup de mal à mentir. Donc, la plupart du temps, quand même, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on ignore de moi ? On ignore de moi qu'en fait, je suis assez romantique et assez j'aime bien essayer de faire que ma vie ressemble à un espèce de film d'amour un peu à l'eau de rose débile.
C'est vrai. Ouais. Mais genre quoi ?
Genre j'aime bien écrire des mots sur les trottoirs à la craie, j'aime attendre les gens avec des panneaux dans des halls de gare. J'aime bien les surprises un peu comme ça qui font que ta vie ressemble un peu à une espèce de truc un peu idiot.
Ah ouais, c'est marrant.
Arriver avec un bouquet de fleurs en plein milieu d'un service.
Et toi, t'aimes bien qu'on te le fasse ?
Ouais, j'aime bien qu'on me le fasse aussi. Je suis toujours un peu gênée, surtout s'il y a du public. Du public connu, parce qu'en fait, je suis jamais très gênée par les inconnus. J'en ai un peu, enfin, les inconnus, comme je connais pas, j'ai pas vraiment de honte en face d'eux. Par contre, s'il y a des gens que je connais dans l'assemblée, là, tout de suite, j'ai l'impression, enfin, je suis un peu plus gênée. Il faut un peu plus la pression.
Qu'est-ce qui t'agace le plus au monde ?
Le fait qu'on me dise qu'il n'y a pas de solution. Ouais. Qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours, on peut toujours trouver quelque chose, quoi. Il y a toujours un autre chemin, autre chose qui est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a toujours quelque chose, quoi. Et ça m'énerve qu'on me dise non, mais ça, c'est pas possible. Si, en fait, tout est possible. Et puis, comme j'ai aussi un autre leitmotiv qui dit que je fais ce que je veux, possible et je fais ce que je veux, c'est pas normal qu'on n'y arrive pas, quoi.
Mais t'as toujours été comme ça ou c'est arrivé plus tard avec ton caractère de dire je peux faire ce que je veux?
Non, je crois que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu, dans ma tête, je me suis jamais dit qu'il y avait des choses que je pourrais pas réaliser, que je pourrais pas faire. Après, il y a des choses qui mettent plus de temps, puis il y a des choses qui marchent pas aussi, mais c'est pas parce que ça a pas marché une fois qu'on peut pas essayer à nouveau, quoi. Donc, puis parfois, on rate un truc, et puis en fait, on réessaye 3 ans plus tard. Donc, en fait, même ce qui marche pas, ou ce qui, entre guillemets, pourrait être une preuve que c'est pas possible. En fait, je le prends pas vraiment comme ça. Je me dis, je réessayerai plus tard. Et ce qui fait aussi parfois un peu des déconvenues. C'est-à-dire que Parfois, je peux répéter plusieurs années de suite exactement la même erreur sur des trucs qui foncièrement ne marchent pas parce que j'en sais rien moi sur démonter un meuble Ikea, jamais.
Ça pour le coup, c'est vraiment pas possible.
Des trucs comme ça, mais bon, ça m'empêche pas de temps en temps de réessayer en me disant mais si, bon, bah c'est bien essayé la dernière fois.
Voilà. Et en parlant de ça, est-ce que tu peux me raconter ton meilleur échec?
Mon meilleur échec, qu'est-ce que ça va être? C'est dur ça, le meilleur échec. Le meilleur échec, c'est en plus c'est un peu une excuse parce que j'ai jamais dit le nom du restaurant, mais on va dire que maintenant je vais le dire. C'est de pas avoir réussi à mon premier boulot. En fait, j'ai démissionné au bout de 3 mois parce que j'étais pas contente, que ça se passait pas bien. C'était chez Pic à Valence et c'est même pas écrit sur le CV. Et j'ai démissionné au bout de 3 mois parce qu'en fait je m'entendais pas avec l'équipe. Et en fait, c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, je pense.
Parce c'est vrai.
En fait, j'ai eu peur d'être dégoûtée du métier par ces gens avec qui j'avais pas d'atome crochu. Et puis cette grosse brigade, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas les grosses brigades. Et du coup, je suis partie. Et en fait, c'était la meilleure idée. Et puis ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas pour la suite. Et du coup, ça m'a permis d'essayer d'orienter ma carrière professionnelle en fonction de ça. Enfin, avec du recul, c'était chouette. Sur le moment, j'ai choisi de démissionner un jour où en fait j'avais raté mon train pour rentrer à Paris. Et j'étais tellement fatiguée, tellement à bout que en fait j'ai pleuré pendant 2 heures tout seul chez moi. Je peux m'arrêter. Là, je me suis dit non, mais en fait c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Il faut que je démissionne et que je trouve autre chose.
C'est fait. Et justement, qu'est-ce qui te fait pleurer ou qu'est-ce qui peut te faire pleurer?
Alors je pleure assez facilement de fatigue, comme je viens de le dire, ou quand je suis très énervée. Ça c'est pour le côté pas drôle, parce qu'on a toujours des larmes pas drôles. Et après, en larmes hyper émotives, moi, c'est les victoires sportives qui m'émeuvent.
C'est vrai, mais pas les tiennes, les victoires
des
gens.
Non, parce que je suis pas du tout sportive. Ah non, pas les miennes, pas du tout. Non, mais genre, je pleure quand on est champion du monde, je pleure quand on bat le record du 100 mètres. En fait, mon père est un ancien athlète. Il devait participer aux Jeux Olympiques en 1980.
Incroyable.
En 110 mètres haies et en 100 en longueur. Parce que faut quand même, parce que là c'est l'instant fierté papa.
Ouais, c'est clair.
Quand même sauter 8 mètres en 100 en longueur. Oh. C'est bon. Et en fait le truc c'est qu'il a été interdit de Jeux Olympiques à cause de la guerre froide. Ils ont envoyé des équipes réduites. Les Jeux Olympiques de Moscou, et du coup on lui a dit tu vas aux Jeux Olympiques, et après on lui a dit non mais en fait tu vas pas, et c'est un des plus grands regrets de sa vie. Et du coup depuis que je suis toute petite on regarde le sport à la télé, notamment les Jeux Olympiques, et il les explique hyper bien, il fait les commentaires, tout, il connaît tous les athlètes, toutes les performances, tous les trucs, et du coup tu ressens l'émotion de dingue que produit une victoire sportive à ce niveau là quoi.
Ouais, c'est clair.
Un des grands regrets que j'aurais dans ma vie, je pense, parce que je ferais jamais, je gagnerais jamais du coup ça.
Et je sais pas.
Comment comprendre, en fait, je trouve ça tellement dingue, et à vivre, ça doit être un truc mais exceptionnel.
C'est clair. Ah, c'est clair. Écoute, il n'est jamais trop tard. Hein. Comme tu disais, c'est
le plein du monde.
Chloé Charles, arrête la cuisine, elle s'entraîne pour les JO.
Ça va être un peu comme Rasta Rocket, quoi.
Ça va être beau, ça va être beau. De quoi t'as peur?
Du noir.
Ah, c'est vrai?
Du noir et des serial killers qu'il y a dans le noir.
Ah oui.
Il y a toujours des serial killers dans le noir, c'est évident.
Toujours. C'est là qu'ils se cachent.
Mais oui, c'est évident. Et donc, dans la cave, tout ça, il y a toujours un mec qui est caché et qui t'attend.
Ouais.
En vrai, j'essaye de lutter un peu contre ça, mais c'est pas facile. Donc parfois je me fais un peu violence et je me crée un peu je me dis genre non mais attends, il y a personne là, tu vois, bah c'est bon quoi, ça suffit maintenant. 3 ans, on n'a pas peur du noir à 33 ans. Tu,
tu te fais des petites feintes et tu fermes les yeux.
Non, ça marche pas trop. Mais c'est le noir complet. Et j'ai fait une, tu vois, j'en ai fait une il y a 2 ans, une crise de panique où j'arrivais pas à dormir et du coup j'étais dans une maison dans les Landes chez une copine et j'étais que, je débranche une prise qui était allumée qui faisait de la lumière, je retourne dans mon lit et là je fais oh putain il fait nuit noire mais genre nuit noire vénère. Et en fait, j'arrivais même pas à sortir de mon lit pour rembrocher éventuellement cette prise qui, en gros, clairement était comme une veilleuse d'un enfant de 3 ans.
Ouais, ouais.
C'est quand même assez ridicule. Et du coup, j'ai lu des articles, j'ai lu pour essayer de me déconcentrer un peu. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est m'endormir avec mon téléphone allumé. En fait, j'ai enlevé l'éteignage automatique là et je l'ai laissé allumé à côté de moi pour pouvoir m'endormir parce que sinon j'arrive.
Non.
Et bon après c'est pas grave, tu vois, mais j'essaie de dormir parce que ça me saoule un peu quand même, c'est assez
c'est un peu
chiant si tu veux de se dire qu'on est enfin les peurs comme ça incontrôlées, c'est pas très agréable parce qu'on sait au fond de soi que c'est pas rationnel en fait.
Mmh.
Et oui, on n'arrive pas complètement paralysé par le truc. Moi je peux pas mettre un orteil en dehors de ma couette, enfin qu'est-ce qui dit que s'il y a un mec qui est là, de toute façon il va pas, c'est pas parce que j'ai un orteil en dehors de ma couette, enfin, c'est débile.
Mmh.
Mais sur le moment c'est un peu compliqué.
Bah ouais, c'est inexplicable quoi.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un trait de caractère à toi dont t'aimerais te débarrasser?
Ouais, en fait je fais des gaffes tout le temps et donc là
tu vois très bien, ouais.
Tout le temps, c'est ma spécialité. C'est genre, c'est que ça soit sur. Et comment il va ton mec? Ah, vous êtes plus ensemble. Ok, très
bien. Ouais.
Voilà, genre. Et du coup, elle en pense quoi ta mère? Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, tu m'as dit que. qu'elle était. Ok. Que des trucs comme ça, tout le temps, ça, c'est ma spécialité.
Ouais, ouais.
Et du coup, bon. Et puis en plus, on peut pas trouver de parade à ça. Donc, j'essaie maintenant de faire un peu attention et de tourner un peu cette fois ma langue dans ma bouche, mais voilà.
Moi, je trouve que c'est un bon défaut, mais je peux comprendre que parfois, ce soit un peu gênant.
En fait, ça, des fois, parfois, c'est rigolo, tu vois. J'avais un client, j'ai fait un dîner pour Éric Bompard en janvier dernier. Hyper tendu, tu vois, et le pianiste en plus arrivait pas et tout, on savait pas où on allait mettre les tables, tout le monde était très stressé et à un moment je vois un mec qui était pas là depuis le début et je regarde et puis tout le monde je dis et vous du coup vous êtes le pianiste? Il dit non, moi je suis le président directeur de général de Éric Bompard. Du coup tout le monde s'est marré et puis ça, voilà, ça a détendu un peu l'atmosphère.
Ouais.
Mais
c'était la seule qui l'avait pas googlé avant, quoi.
Oui, non. Ben non.
Ben non, c'est un réflexe qu'on a pas.
En même temps, on va dire que cette bourde-là, moi, elle me dérange pas vraiment.
Non.
Ou justement, en fait, lui, je pense qu'il attend plus que lui, je pense que ça le fait marrer qu'on le prenne pour le pianiste, parce que je pense qu'on lui fait des courbettes sans arrêt et d'avoir quelqu'un qui le considère. Avec respect, mais normalement,
oui,
que, bien sûr, ça va être plutôt mieux, je pense. Enfin, j'en sais rien.
Écoute, on lui posera la question à l'occasion. Est-ce que t'as une passion complètement inexplicable et les gens qui te connaissent bien, quand ils la voient, ils se disent ah ouais, ça c'est pour Chloé, quoi.
Ouais, je reçois même des photos.
on dirait vraiment qu'on a préparé les réponses, mais non, t'es au taquet sur toutes les questions.
Non, mais en fait j'y pense parce qu'on va en envoyer une il y a avant-hier. Je reçois des photos de grues sur mon téléphone. parce que j'adore les grues et c'est même un cadeau d'anniversaire que Gaëlle m'a fait. Elle avait une belle photo de grue, donc à la maison on a un tableau qui doit faire, je sais pas moi, 1 mètre sur 1 mètre, tu vois.
Ah ouais. Mais attends, mais t'es déjà monté tout en haut d'une grue?
C'est mon rêve de toute une vie, il faut absolument que je fasse.
Mais attends, mais tu connais pas un chef de chantier, je sais pas moi, Vinci, ou c'est quoi les grues?
S'il y a un grutier ou une grutière,
ah ouais,
entend ce podcast, qui veut m'emmener en haut de sa grue,
bah ouais,
moi, une femme comblée.
Oh là là. C'est génial comme passion, j'adore.
Mais en fait, je regardais avec ma mère quand on était petite, on regardait les grues bouger parce qu'en fait, c'est assez dingue ce que tu peux faire avec une grue. Enfin, ils sont à je sais pas combien de mètres au-dessus du sol et ils réussissent à faire des trucs hyper précis en transportant des trucs qui font 30 mètres de long, tu vois. Et c'est assez impressionnant et du coup, j'aime beaucoup les grues.
C'est énorme. Ok. Est-ce que t'es quelqu'un d'influençable?
Ouais, assez. Assez bizarrement d'ailleurs, parce que à la fois je suis influençable et à la fois pas du tout. En fait, ça dépend un peu de... Mais je pense que ça, c'est assez naturel. Je pense que ça dépend vachement de l'admiration que je porte à la personne. Et donc, si je suis un peu neuneux à me dire genre cette personne-là est formidable du monde, je peux ça va plus être par des espèces de traits de caractère, de manière de me tenir, de éventuellement me vêtir, enfin c'est ouais
un peu de mimétisme
exactement.
OK. Oui, donc c'est pas te faire changer d'avis sur une opinion qui est vraiment très ancrée en toi, c'est plus tu te fais un peu influencer sur ta façon d'être, quoi.
Ouais, c'est ça. Non, par contre, exactement. Mais sur les opinions, je suis pas influençable. C'est-à-dire que si j'ai décidé un truc, je vais le faire. Y a des trucs où tu peux pas lutter. Par contre, si t'arrives avec des arguments et que tu me dis non mais attends, là ça va pas du tout. Par A, tu peux pas. Par B, c'est une bêtise. Ça me fait quand même réfléchir. Enfin voilà, je peux changer d'avis. Je suis pas quelqu'un qui suit sans arrêt, sans arrêt.
Borné.
Non.
Ok. Est-ce que tu t'aimes?
Un peu. Enfin, je m'aime. Oui, je m'aime. Comment dire? J'ai la chance d'avoir confiance en moi. Mm-hmm. C'est-à-dire que je sais à peu près où j'en suis et je sais aussi. Et je sais aussi m'affirmer suffisamment, même quand je suis pas hyper sûre de moi. En fait, je dis si c'est comme ça et c'est pas autrement. Et même si dans ma tête c'est pas vraiment hyper sûr et certain, j'arrive à peu près. Enfin, j'ai confiance en moi et dans mes choix et dans qui je suis, où est-ce que j'en suis dans ma vie et compagnie. Après, physiquement, c'était un peu plus compliqué, mais ce qui est marrant, c'est que je m'aime pas trop. Quand je me vois en fait moi, quand je vois une vidéo de moi ou quand je me vois dans un miroir, je m'aime pas trop, pas trop du tout. Mais par contre, quand je me vois pas, je me sens plutôt très à l'aise, quoi.
Et ça a toujours été le cas.
Ouais, quand même plutôt. Après, bizarrement, j'ai quand même une famille où on est à la fois hyper gourmand et à la fois avec pas mal qui regardent un peu tout le temps ce qu'il y a dans leur assiette, ce qu'ils mangent et compagnie, quoi. Donc ça, c'est un peu moi, j'essaie de passer outre parce que ça m'embête un peu. Et puis en même temps, ce que j'ai envie, c'est d'être bien dans ma peau, quoi. Donc
oui.
Quand je sens que vraiment je sens que je me sens trop grosse, j'essaye quand même de faire un peu attention à mon poids parce que c'est pas très agréable de pas se sentir bien dans son corps, quoi. Ça fait un peu yo-yo parce que en fait du coup je fais attention, donc je me sens mieux, donc du coup je me dis vive la
c'est clair.
Et du coup après je suis là genre oh là là, je suis pas bien.
Ah, faut refaire là.
C'est ça, c'est à peu près ça.
C'est nul. bah ouais, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. C'est ça d'aimer le pété comme nous.
C'est ça.
Est-ce que t'es religieuse?
Pas du tout, mais j'ai une éducation assez catho finalement, parce que j'ai été dès la primaire en école privée catho, un peu par hasard, parce qu'en fait mes parents voulaient me mettre à l'école publique et en fait ça se passait pas bien au premier trimestre de petite section. En gros, je suis passé de je veux trop aller à l'école à je veux plus jamais y aller, et je faisais des crises tous les matins. Et du coup, ils m'ont passé en privé catho parce qu'ils connaissaient la directrice qui était une copine de mes grands-parents. Et qui était une école Montessori et on faisait du caté le matin, mais c'était pas une messe ou quoi, c'était en fait on nous racontait la vie de Jésus, quoi, en gros. On racontait l'histoire de Jésus, mais comme on nous raconterait l'histoire de Babar, quoi, tu vois. un peu. Et du coup, bah, ça m'a quand même, enfin, j'ai fait ça toute ma maternelle et toute ma primaire, donc il y avait quand même un peu de religion là-dedans. Et en plus de ça, mes grands-parents, du coup, étaient un peu des... Plus mon grand-père, d'ailleurs, parce que depuis que mon grand-père est mort, ma grand-mère dit qu'elle croit plus en Dieu. Mais avec mon grand-père, on allait dans une espèce de communauté catho-babacool où on ramenait nous-mêmes le pain, sur des coussins, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. Enfin, c'était pas du tout des messes traditionnelles. C'est des franciscains, je crois, ça s'appelle. Et voilà, après j'ai été mais là c'était pour me marrer avec mes potes parce que j'ai rejoint une copine au scout en fait, donc j'ai été scout entre mes 14 et mes 18 ans.
OK, ouais. Ah quand même.
14 et même entre mes 14 et mes 20 ans, j'ai arrêté après ma j'étais chef Ten Jamet, j'ai arrêté après Ferrandi. Mais en fait j'adorais les scouts, je me suis trop marrée. Et pareil, il y avait un côté catho, mais en fait c'était pas catho, comment dire, c'était un peu le passage obligé pour se marrer. Donc en fait on allait, il y avait la messe du dimanche, fallait y aller. En fait on faisait toutes les pires blagues, on arrivait, on avait la gueule de bois, on foutait la gueule de tout le monde, ça partait en fou rire une fois sur deux, enfin moi c'était n'importe quoi. Et en fait aujourd'hui toute la bande de mes copines scouts c'est toutes mes meilleures amies en fait, on est une bande de...
Ah génial.
On est 6 et on est ultra soudés, on a un groupe WhatsApp qui sonne au moins une fois par jour, on a faim. Donc
un peu comme une grande colo quoi.
Ouais, c'est ça en fait, pour moi les scouts c'était une colo assurée tous les étés. Avec des gens avec qui tu passais ton temps toute l'année quoi. Donc en fait c'était des vacances entre copines un peu encadrées, mais voilà. Enfin moi j'ai fait toutes mes bêtises d'adolescente, je les ai faites au scout. Je me suis trop marrée.
Donc toi t'as pris les bons côtés de la religion quoi.
Ouais, en fait j'ai pris le côté plus culturel, tu vois, enfin le fait de enfin, je le prends. Pour moi, la religion, c'était comme des cours d'histoire géo, quoi. Enfin, c'est de la connaissance.
Oui, c'est de la culture. C'est vrai, t'as raison. Hein.
Et mais par contre, enfin, comme mes parents, pour le coup, croient pas en Dieu et je suis jamais allé à la messe avec mes parents en dehors d'enterrement ou de baptême ou de trucs comme ça, mais qui étaient, on va dire, des espèces d'obligations culturelles. Je crois en Dieu quoi, vraiment, enfin ça me...
Est-ce que t'as un quelconque rapport à la mode?
C'est pour faire rire.
En fait, quand je dis aux gens est-ce que vous aimez la mode, ils osent pas répondre oui parce qu'ils se disent après les gens ils vont regarder comment je m'habille et machin, donc du coup je le pose différemment.
Non. C'est-à-dire que je fais des efforts vestimentaires parce que j'aime quand ma femme me dit que je suis jolie.
Mais, ça fait toujours plaisir. Hein.
Ça fait toujours plaisir. Et ben voilà, donc du coup, quand je m'habille bien, on va dire qu'elle le dit plus. Elle me le dit aussi parfois quand je suis pas très bien habillée, mais elle me le dit quand je suis bien habillée. Mais c'est vrai que. Moi, si je pouvais avoir tout le temps le même t-shirt et le même jean, je le ferais. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'amuse. Par contre, j'aime bien les belles matières, j'aime bien les beaux objets. Donc, je suis incapable je suis plus capable parce que je l'ai été, mais je suis plus capable d'aller acheter des t-shirts à 3 francs chez H&M qui le lavage sont défoncés quoi.
Ouais, okay.
Encore les t-shirts, c'est même pas le bon exemple parce qu'en soi un t-shirt c'est un t-shirt, mais c'est aussi tous les pulls en acrylique. Je regarde vachement les compositions des vêtements et je fais hyper attention à ça parce qu'en fait ça change tout au niveau de. Enfin, c'est hyper agréable de porter une belle matière. Donc, un truc qui pique, qui gratte, qui fait de l'électricité statique, c'est insupportable.
C'est clair, qui colle.
C'est ça. Et donc du coup, j'achète pas beaucoup de fringues, mais par contre, quand j'en achète, généralement, elles coûtent assez cher, mais c'est dans le but aussi de les garder très longtemps.
Ouais, mais en fait, c'est un peu ta philosophie pour tout. Tu vas acheter une très bonne huile d'olive, faire un beau voyage, avoir un beau canapé, enfin, j'imagine, pour tout, quoi.
Oui, oui, c'est ça, exactement.
Bah, c'est bien. C'est très 2030.
J'espère, ouais.
Bah ouais, c'est clair, j'espère.
De plus en plus nombreux à essayer de faire ça, puis après, bon, c'est vrai qu'il faut avoir un peu les moyens sur l'instant. Moi, je crois pas que ça soit une histoire de, enfin, je pense que sur l'instant, effectivement, ça coûte quand même pas mal d'argent et je suis assez d'accord qu'il y a pas mal de gens qui peuvent pas se le payer, mais c'est toujours pareil. C'est est-ce que tu vas acheter 15 t-shirts à, enfin, 15 pulls à 15, à 10 euros ou est-ce que tu vas acheter un pull à 150 euros, quoi?
Bah ouais, c'est clair.
Donc,
c'est clair.
Voilà.
Alors, dernière question. Donc, tu peux y aller, tu peux prendre ton temps pour répondre. Est-ce que tu peux me décrire ton gueuleton idéal? Donc, où, de quoi il est composé, avec qui, quand, voilà. Vraiment ton gueuleton de rêve.
Idéal. Alors déjà, il y a un barbecue.
Très bien.
Ça, c'est...
Et une grue.
donc du coup, ça veut dire que c'est pas dans le Gard au mois d'août.
Oui.
Déjà.
C'est réglé.
Ça fait un peu qui est-ce, tu sais. Genre, c'est pas le plomb.
Il a des lunettes.
Donc du coup déjà il y a un barbecue, il y a des copains, il y a du vin pour allumer le barbecue, enfin pour allumer le barbecue, mais pas le vin dans le barbecue.
Important.
C'est important. Même si l'alcool brûle, on ne met pas le vin dans le barbecue. Et après sur le barbecue, c'est important de mettre une bonne viande. Mm-hmm. Légumes, il faut toujours après il faut du frais, donc il faut toujours un peu des concombres à côté. Mm-hmm. Et il faut surtout du yaourt aussi, parce que mm-hmm. le yaourt à la ciboulette et à l'ail ou des trucs comme ça là,
c'est pas bon. Ouais.
Et il faut des fruits parce qu'il mm-hmm. faut quand même un peu du frais et compagnie. Il faut un bon pain et des rillettes à l'apéro. Les rillettes, c'est hyper important.
Ah ouais.
Mmh. Il faut un fromage, genre un Saint-Félicien à manger à la cuillère.
Mmh.
La cuillère, c'est bon, avec un pain, un bon pain, genre bien, bien croustillant, avec la croûte tellement, tellement grillée qu'elle colle un peu, tu sais, qu'elle fait un peu du caramel.
Ah ouais, ouais.
Et pas trop de dessert, j'avoue. Après, il en faut pour le pain, forcément des copains qui aiment le sucre, donc du coup, on va dire qu'il y a des desserts, mais c'est plus pour les copains que pour moi. Et pour ces années-là aussi. Enfin, tu vois, il faut pas même le truc comme ça et après moi j'aime bien tu vois quand ça commence à 14h et que ça dure jusqu'à 19h, tu vois.
Ouais.
Parce que tu as le temps et que tu te prends pas la tête. Et que, du coup tu vois au début tu es à l'ombre et puis petit à petit au fur et à mesure de la journée tu passes un peu au soleil, mais quand le soleil il est un peu plus doux.
Mmh. Bah écoute, tu me diras où et quand, hein. Parfait.
C'est assez précis, hein, comme truc. Mais bon.
Ouais, c'est très très précis, c'est vraiment.
Pour un gueuleton, tu vois, bon, c'est pas hyper rapide, mais.
Ouais.
Mais après, sinon, pour un bon gueuleton, c'est, enfin, tu vois, ça va vite. Hein. Ah ouais, puis il y a le saucisson aussi, un super bon saucisson, c'est quand même assez exceptionnel. Donc du coup, il faut absolument.
Ah ouais, on a failli oublier le saucisson.
Mmh. Ah oui. Bon, il faut tellement de choses. Mais principalement, en gros, c'est bien boire, bien manger et bien entouré, quoi. Donc.
Bah ouais.
Ça peut être aussi avec les cousins. Là, j'en ai fait pas mal cet été avec les cousins. On a fait des soirées pizza, four à pain et tout, parce que ma grand-mère a un four à pain à boire, des pizzas, des soirées pizza dedans, c'est cool.
Ah ouais, quel kiff. Voilà. Génial. Eh ben, Chloé, c'était un vrai bonheur d'en savoir plus sur toi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis à bientôt pour un gueuleton.
Bah ouais, parce que quand même, voilà. Je peux t'empêcher de parler de bouffe. Hein.
Bah oui, exactement. Tu remarqueras que 30 minutes, c'est vraiment bon.
En fait, on parle de bouffe, quoi.
À la fin, quoi.
À la fin, quand même, parce que retour aux origines. Retour à la vie normale, parlons de bouffe.
Voilà, c'est ça, c'est la seule question subsidiaire, tu vois. Eh ben, merci, Chloé.
De rien, merci. Ciao.
Ciao.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe 2 fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.